Maison des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission que nous avons appelée « Après la guerre » mais que nous aurions pu intituler « Drôle d'oiseau » puisqu'elle réunit deux écrivains qui, en cette rentrée de janvier, s'intéressent à la fois à la guerre et aux oiseaux et qui expérimentent chacun à leur façon dans le champ du roman français. Christian Garcin et Jean Rollin. Bonjour Jean Rollin.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Chrétien, Campagne, Hormuz, Prix de la langue française, La ligne de front, Prix Albert Londres 1988, de l'Organisation, Prix Médicis 96. Vous doit aussi de grands reportages sur la guerre en ex-Yougoslavie et vous publiez Le traqué kurde chez POL. Qu'est-ce que ce traqué kurde? Un oiseau, nous dites-vous, qui, comme son nom l'indique, vit du côté du Proche-Orient, mais qui a été observé au printemps 2015 au sommet du Puy-de-Dôme, alors qu'il n'avait jamais été vu en France auparavant. Et pas n'importe où, car cet oiseau était posé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Mercure, le dieu romain des messagers et le messager des dieux. Son apparition a-t-elle ou non un lien avec la résistance des Kurdes à Kobané, au moment où l'État islamique tente un assaut redoutable? Il n'en fallait pas plus pour que vous vous lanciez, Jean Rollin, sur la piste de ce traqué kurde qui va mener le lecteur dans les pages des ouvrages d'ornithologie les plus savants, dans les tiroirs des réserves des musées de sciences naturelles où sommeillent ces dépouilles de volatiles, mais aussi sur les talons d'officiers britanniques de légende comme le colonel Lawrence, alias Lawrence d'Arabie, Saint John Philby, le père de Kim, le fameux espion à la solde du KGB, ou encore le terrible Meinertz Hagen, officier des renseignements et ornithologue britannique, dont vous nous livrez le moindre des roucoulements. Il existe vraiment ce traqué kurde, Jean Rollin?
Oui, bien sûr, oui, il existe vraiment. Il porte d'ailleurs un nom scientifique qui s'appelle Enant de Xanthoprimna, bon, ce qui est une...
Enant, hein, oui, parce que oui. C'est la famille des traqués. Hein,
c'est ça, des Enantes. Et il existe, sauf que son existence m'était inconnue, comme j'imagine à pas mal de gens, jusqu'à cette apparition tout à fait fortuite en 2015, au printemps, au sommet du Puy-de-Dôme, où il a été repéré par quelqu'un qui est enseignant à Clermont-Ferrand, qui va régulièrement faire du jogging ornithologique sur les pentes du Puy-de-Dôme, qui a repéré cet oiseau. Et qu'il l'a photographié, parce que bon, lui c'est un type savant, beaucoup plus que moi, donc il a tout de suite vu que c'était un traqué, ce que j'aurais peut-être été capable de voir moi-même, donc il appartenait à cette famille des Enantes, mais c'était un traqué d'un modèle qui n'existe pas normalement en Europe. Donc il l'a photographié, après la photo a circulé, et des ornithologues de haut niveau l'ont identifié comme un traqué kurde.
Alors, il l'a baptisé kurde en plus, donc
oui, c'est-à-dire, en fait, il s'appelait
c'est
le traqué,
politique là.
Oui, voilà, il s'appelait le traqué à queue rousse, jusque dans un passé récent, et enfin au début, je pense, du 21e siècle, il a été rebaptisé traqué kurde. Alors comme je le note, c'est peut-être pour chagriner les autorités turques, surtout en ce moment.
Mais oui, enfin, parce c'est que surtout le Kurdistan en tant que tel a des problèmes pour se faire reconnaître.
Pour exister, oui. Voilà. Mais par ailleurs, il se trouve que cet oiseau se reproduit sur la totalité de la zone linguistiquement, en tout cas, kurde. C'est entre l'est de la Turquie et l'ouest de l'Iran, en passant par le nord de l'Irak, on va dire. Voilà, c'est là qu'il se reproduit. Il hiverne normalement plutôt là chez les Wahhabites, sur le rivage de la mer Rouge, en Arabie Saoudite et peut-être jusqu'en Somalie. Donc vous voyez, c'est une route migratoire assez simple, et donc on ne sait pas du tout comment est-ce qu'il a pu dévier sa trajectoire, celui-là, au point de se retrouver au sommet du Puy-de-Dôme. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est en même temps dans l'environnement qui est également son environnement, là où il se reproduit, c'est-à-dire au Kurdistan. C'est-à-dire qu'en fait, cette cime du Puy-de-Dôme, au printemps, elle ressemble assez au biotope dans lequel se reproduit le traqué kurde chez lui.
Bonjour Christian Garcin.
Bonjour.
Vous êtes en face de Jean Rollin. Vous avez connu à cette table, traquant vous, les baleines. C'était pour Les vies multiples de Jeremiah Reynolds. Jeremiah Reynolds avait été l'un des inspirateurs de Melville pour Moby Dick. Et vous voici, vous aussi, sur la piste de trois drôles d'oiseaux. Trois vétérans des guerres américaines au Vietnam et en Irak qui se retrouvent un peu perchés dans les canalisations peuplées de la ville de Las Vegas. Cela s'appelle ce livre « Les oiseaux morts de l'Amérique », c'est chez Actes Sud. Et c'est l'occasion pour vous de nous décrire l'inframonde des laissés pour compte américains, de nous décrire aussi les guerres menées par ces trois hommes. et le rêve d'un refuge qui ne serait pas l'ornithologie, mais où il est quand même question de voler, notamment à travers le temps, d'utiliser les ailes de l'imagination, même quand l'indicible, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire les gens qu'on tue, nous empêche de nous évader. En tout cas, un refuge qui donnerait accès à une autre forme de vérité. Quel est le sens de ce titre, Christian Garcin, qui semble nous ramener, cette fois-ci, non pas au traqué kurde existant tel qu'il est décrit dans les ouvrages d'ornithologie, mais à une image biblique?
Oui, alors les oiseaux morts de l'Amérique, c'est un sens à la fois direct et, disons, métaphorique. Direct parce qu'effectivement, c'est pas trop spoiler, comme on dit aujourd'hui, le roman, que de révéler qu'il y a à un moment donné une chute d'oiseaux morts.
Je vous cite, des milliers de petits corps noirs et morts partout, ils avançaient lentement, précautionneusement, levant haut les pieds, prenant garde à n'en écraser aucun. Le silence était épais et le spectacle inouï, quoique non dénué d'une certaine beauté. La beauté brute de l'incongru et incompréhensible sauvagerie du monde.
Alors, ces oiseaux qui tombent du ciel, comme ça, morts, alors ça se produit parfois, c'est plus d'oiseaux morts, c'est relativement inexpliqué. En général, ce sont des... Alors, je suis beaucoup moins spécialiste en oiseaux que Jean, Rolin qui est en face de moi, mais ce sont des carouges à épaulettes.
Ah oui, alors Jean, là, qui nous ramènerait dans notre sujet.
Qui sont tombés à plusieurs reprises, par milliers, dans le sud des États-Unis, autour de la Saint-Sylvestre 2012, je crois, et ils étaient manifestement morts de peur. Alors, on avait supposé que c'était en raison des pétards qui sont lancés cette nuit-là. Sauf qu'une semaine, 10 jours après, il y en a eu encore des centaines, des milliers qui sont tombés en Louisiane, au Texas, etc. Et également en Europe, en Suède. Et c'est totalement inexpliqué. Alors, cette chute d'animaux, évidemment, il y a une... Enfin, ça fait penser, bien entendu, aux chutes d'animaux bibliques, aux pluies de grenouilles, etc. Sauf que, bon, les grenouilles, j'imagine... Alors, je suis pas du tout spécialiste des chutes d'animaux morts, je dois le préciser. Mais je suppose que les chutes de grenouilles, les pluies de grenouilles, comme on dit, ce sont des animaux qui ont été transportés là par des vents ou des tornades et qui, à un moment donné, le vent ou la tornade cessant, chutent là où ils se trouvent. Les oiseaux, c'est plus complexe puisque finalement, c'est quand même des animaux qui volent, donc qui d'un coup s'arrêtent et tombent par milliers.
S'arrêtent de voler, exactement.
Alors donc, il y a ce sens direct par rapport à cet événement-là qui fait partie du livre. Et puis, il y a aussi, si on veut, une espèce de... Bon, une métaphore globale, des anciens, des vétérans, côté ange déchu, si l'on veut, de
oui,
ces vétérans.
Les libérateurs abandonnés.
Voilà, des guerres d'Irak et du Vietnam, qui dans le roman donc, sont trois, qui vivent ensemble dans ces canaux d'évacuation des eaux à Las Vegas, où se trouvent beaucoup de SDF, plusieurs centaines, dont pas mal de vétérans de guerre que j'avais vus lorsque je m'étais rendu là-bas.
Cette image, justement, des oiseaux liés finalement aux guerres des hommes, ou parliez de pétards, aux explosions des hommes. C'est une image, Christian Garcin, que vous partagez avec Jean Rolin, des oiseaux témoins, finalement, de ces conflits. En quoi était-ce, pour vous deux, nécessaire d'activer ou de réactiver symboliquement l'image de cet oiseau au cœur de la guerre que se livrent d'autres habitants du monde, les habitants que sont les hommes? Qu'est-ce qu'il traduit, cet oiseau, par rapport aux autres animaux? Je pense aux chiens, par exemple, Jean Rolin, auquel vous aviez aussi consacré un livre sur les chiens qui errent pendant les guerres des hommes.
D'abord, je me suis toujours intéressé à la présence à nos côtés subir des animaux. En particulier des animaux féraux ou féralisés, c'est-à-dire des animaux domestiques redevenus sauvages, et plus particulièrement aux chiens. Et notamment à leur présence, parce qu'on la remarque plus dans ces moments-là, dans des moments de crise extrême. Bon, je pense à l'exode des populations, à la guerre, bien sûr, et à la guerre qui est généralement cause de l'exode. Les oiseaux ne sont pas, à ma connaissance, ils ne sont pas directement affectés par les conflits. Enfin, si, ils peuvent l'être. J'imagine que quand on répand de l'agent orange sur les forêts vietnamiennes, les oiseaux se portent assez mal. Mais disons qu'il n'y a pas de... Il y a une présence... Enfin, je cite quelque chose dans ce livre, justement, qui était des observations ornithologiques qui ont pu être faites pendant la guerre par des gens qui avaient par ailleurs des occupations militaires. Bon, je cite un auteur français qui était par ailleurs le fabricant d'un excellent cognac de la main, je crois, non? Bon, lui, déjà, c'est tout à fait étrange. C'est-à-dire qu'il est sur le front dans la guerre de 14 et il décrit les réactions des oiseaux, c'est au printemps. Donc les oiseaux chantent au printemps. Hein. Et comment le chant des oiseaux s'interrompt ou ne s'interrompt pas au départ des coups de canon. Voilà, c'est une observation quand même assez étrange. Et à la même époque, une sommité de l'ornithologie allemande et de l'ornithologie mondiale, qui s'appelle Stresemann, comme l'homme d'État, bon, Stresemann était observateur d'artillerie, donc du côté allemand, à Verdun, dans un ballon captif, et donc à une certaine altitude, et il profite de cette circonstance pour prendre des notes sur le vol des martinets. Et en 1918, donc dans une Allemagne, enfin on sait dans quel état était l'Allemagne en 1918, dans une Allemagne exsangue, en proie à la Révolution, etc., il trouve le moyen de publier, alors ça je ne l'ai jamais eu sous les yeux, mais je sais qu'il existe, il publie un petit ouvrage sur l'altitude à laquelle volent les martinets, qui est le fruit de ses observations dans son ballon d'observateur d'artillerie. Donc il y a toujours...
L'animal est là, en fait.
Oui, l'animal est là, moi j'ai fait quelques observations, mais enfin pas très intéressantes, quoi. Je n'ai jamais cessé, je pense, de toute ma vie, d'avoir un œil pour les oiseaux.
Voilà, même quand vous étiez vous-même sur des théâtres d'opérations, en ex-Yougoslavie, pendant la guerre.
Sarajevo, j'ai fait des observations d'oiseaux. Je me souviens tout à fait à la fin de la guerre, j'avais observé avec plaisir d'ailleurs qu'il y avait un oiseau qui n'est pas excessivement rare, mais qui n'est pas non plus très courant, qui s'appelle le cinque, le plongeur. Un oiseau
vous
qui a la.
Vous connaissez, Christian Garcin.
Il y en a dans les Alpes.
Il y en a même en Ardèche.
Un oiseau qui s'appelle le plongeur.
Il a la particularité de marcher au fond de l'eau.
Cinque, le plongeur, mais cinque.
Le cinque, plongeur.
C'est Jens Hell. Il marche contre courant.
Voilà. Et à la fin de la guerre, en Yougoslavie, j'en avais aperçu dans les gorges de la Miljačka, enfin à l'entrée de Sarajevo. Et donc ça m'avait fait plaisir.
Mais c'est-à-dire que l'animal dans la guerre, c'est donc, au fond, l'allégorie permanente de la guerre pour l'écrivain qui écrit sur la guerre. Je pense au début de Moby Dick, qui vous est cher, Christian Garcin. Ismaël, qui est sur le point d'embarquer, remarque que le capitaine Akab porte le nom d'un roi biblique dont le corps a été livré aux chiens. J'aurais pu parler aussi des ours que vous aviez vus en ex-Yougoslavie, Jean Rollin, et qu'en fait, qu'on retrouvait presque comme un blason animé d'un chef de guerre lié à Arkane. Christian Garcin, vous auriez pu choisir une autre métaphore aussi pour parler de ces soldats, ces anges déchus. Mais vous avez choisi l'oiseau. C'est la figure qui se prête le mieux à une allégorie de la guerre ?
Ça, je ne saurais pas dire. À titre personnel, je suis assez attentif, pour dire les choses très globalement et très maladroitement, au monde animal. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais disons qu'il m'arrive souvent d'aller marcher en montagne, par exemple, dans le but presque exclusif d'aller observer des animaux. La confrontation, ce que voit un animal sauvage, surtout lorsqu'il croise des humains, je me passe mon temps dans ces moments-là à me demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il voit, comment il nous voit. Donc, il y a une espèce de proximité, je veux dire, d'intérêt. L'éthologie m'a toujours intéressé, les ouvrages de vulgarisation, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste, mais sur le comportement animal.
Pas encore, mais...
Oui, Donc voilà, il y a souvent, dans beaucoup de mes livres d'ailleurs, des animaux qui sont présents.
Mais il y a les rats aussi, parce qu'en fait, l'un des vétérans était
ce qu'on appelle les rats des tunnels.
Les rats des tunnels au Vietnam, parlez-en un peu.
Les rats des tunnels, les Australiens préfèrent appeler ça des furets. Des tunnels. C'est une unité spéciale des forces américaines au Vietnam qui était... Alors il faut savoir que, je vais revenir un peu en arrière, il faut savoir que dans le sud du Vietnam, autour de Saigon, jusqu'à 250 km à peu près autour de Saigon, il y a des réseaux de galeries souterraines qui avaient été creusées par les Viet Minh à l'époque de l'occupation française et qui a été développées ensuite par les Viet Cong, qui étaient des poches à la fois de fuite de résistance, d'entrepôts, d'armes, de cachettes, etc. et qui dessinaient toute une cartographie souterraine de galeries et de salles qui s'étendaient sur plusieurs dizaines de kilomètres, jusqu'à 250 kilomètres de réseau, paraît-il, dans lesquels s'abritaient les combattants Viet Cong et qui opéraient donc par une guérilla comme ça, d'attaque par surprise. Et les forces américaines avaient développé un corps particulier qui s'appelait les rats des tunnels pour pénétrer dans ces galeries et dans des conditions absolument effroyables. D'abord, il fallait surtout pas être claustrophobe, je pense, et puis être de petite taille aussi quand même, parce que c'était des endroits assez exigus. Et puis, c'était des combats dont on imagine mal la sauvagerie, puisque finalement, on se retrouvait dans des conditions d'obscurité, de promiscuité, d'humidité, d'étroitesse, enfin, à combattre corps à corps parfois. Et lorsqu'il y avait des morts, on les tirait avec des cordes par les pieds pour les faire sortir de ces galeries. Enfin, c'était une expérience extrêmement traumatisante, évidemment, pour tous ces combattants. Et le personnage principal du livre, qui s'appelle Hoyt Stapleton, qui est un ancien, donc, marine, enfin, un vétéran de la guerre du Vietnam, a été rat des tunnels entre 1966 et 69.
Et je vous cite, parfois, il fallait ramper sur des centaines de mètres dans le noir, l'humidité parmi les bestioles qui grouillaient, les terreurs ancestrales qui surgissaient moites, C'était très éprouvant, on les avait appelés rats des tunnels, mais lombriques ou scolopendres auraient pu aussi bien convenir, si ce n'est mieux. Donc rats, ours, oiseaux, finalement, la guerre n'est jamais, ne se sépare jamais d'une forme de bestiaire, Jean-Rolin.
Oui, enfin la guerre,
l'homme de guerre,
c'est pas une particularité de la guerre. C'est je veux dire, des animaux en question, ils sont toujours là. Alors, après, il se trouve qu'on en fait un usage différent dans la guerre et dans la paix, et qu'ils ont une présence qui est perçue aussi différemment. C'est le cas, une fois de plus, je vous dis, des chiens qui sont perçus comme peu menaçants en temps de paix, et éventuellement beaucoup plus, et qui le deviennent d'ailleurs, faute de nourriture, etc., en temps de guerre. Bon. Mais il n'y a pas de statut particulier de l'oiseau dans la guerre. Voilà, il se trouve que c'est tout à fait fortuit. L'apparition du traqué kurde au sommet du Puy-de-Dôme, elle date de quelques semaines, deux, trois mois peut-être après la...
Oui, mais au moment
l'issue de la bataille de Kobané.
Voilà, bon, c'est quand même, enfin, quand on est écrivain, évidemment, et sur les ruines d'un temple de Mercure, bien, comme si ce traqué apportait un message.
Oui, tout à fait, oui, mais en même temps, c'est un thème que j'ai pas développé, enfin, j'ai pas voulu le développer, ça me paraissait d'une certaine façon trop lourdement symbolique et trop facile, mais enfin, à un moment donné, au Kurdistan, justement, irakien, quelqu'un qui voyageait avec moi, un guide à qui je racontais cette histoire, me disait qu'au fond, le destin de ce traqué kurde était à l'image du destin du peuple kurde. Voilà. Bien sûr, lui, ça l'avait tout de suite frappé.
Exactement. Vraiment. On va poursuivre cette plongée dans la guerre et le monde animal et le monde ornithologique avec vous, Christian Garcin et Jean Rollin. Sur la piste du traqué kurde, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Paul. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi une musique iranienne du Kurdistan, c'est ça, Ayedeh, ça s'appelle Salsal, et c'est du farsi, hein, c'est ça qu'on
entend. Oui, c'est ça, enfin, autant que je sache, cette chanteuse est kurde, et elle est populaire au Kurdistan, irakien, mais elle chante en persan, parce que comme énormément de gens de cette région, elle a dû s'exiler en Iran, au moment d'un de il y en a eu plusieurs, hein, mais de l'assaut des troupes de Saddam Hussein contre le Kurdistan, consécutif à la première guerre.
Et donc elle chante en voilà.
Ayant vécu cet exil iranien, à supposer d'ailleurs que tous les Kurdes de cette région de l'est du Kurdistan ne parlent pas de toute façon le farsi. Enfin, je pense qu'ils le parlent. Vous savez, il y a plusieurs variétés de Kurdes en plus, et je pense que celui de l'est doit entretenir de toute façon des relations avec la langue persane.
Vous écoutez France Culture, le temps des écrivains, par Christophe Onodibio.
Ayedeh, le titre c'est Salsal, c'est le choix de Jean Rollin qui publie Le Traqué Kurde chez POL. Ce qu'on entend là, c'est un titre que vous écoutiez là-bas quand vous étiez sur la piste.
Oui, bien sûr, oui,
je n'ai
pas
appris
ça. Enfin, d'abord, je ne connaissais pas du tout l'existence de cette chanteuse avant d'aller là-bas. Hein. Et je trouve très belle cette chanson. D'ailleurs, en dépit de son ton assez martial, c'est pas du tout un air guerrier ou militant. C'est, apparemment, c'est une chanson d'amour. C'est sur, très banalement sur une rupture. Mais enfin, ça, je suis bien incapable d'en juger, parce que à vrai dire, je ne peux même pas reconnaître la langue dans laquelle elle chante. On m'a dit que c'était du persan, mais moi, je ne sais pas la reconnaître.
Très bien.
Et il se trouve que c'était un peu bon, on était trois dans cette voiture, bon, comme ça se passe dans des zones de ce genre, il y avait un chauffeur et ce qu'on appelle désormais un fixeur. Malheureusement, le mot, il est difficile de se passer de ce mot, parce que c'est vrai que c'est pas seulement un interprète, c'est plus qu'un interprète, c'est quelqu'un qui s'occupe d'arranger les choses.
Pourquoi voudriez qu'on se passe ça? C'est un joli mot, le
oui,
le
enfin,
mot
en même temps, oui, bien sûr. Enfin, je suis assez d'accord avec Borer, là, sur le fait qu'il faut lutter quand même contre cette invasion des anglicismes.
Oui, mais le mot fixé est un mot français. Il fixe des rendez-vous, il fixe
Le fixeur, pourquoi pas, oui. À partir du moment où on l'écrit UR, Non, ce que je voulais, et donc c'était un peu notre hymne national. Enfin, c'était, je sais plus lequel des deux, ou le chauffeur, où le fixeur a collé ça dans le lecteur de cassette ou de disque de la voiture, et c'est devenu notre hymne national pour la durée de cette expédition.
Alors ce Traqué kurde est un texte qui s'emploie à nous montrer les liens qui rattachent l'ornithologie à l'art de la guerre, qui nous emmène sur les traces de ce petit oiseau, puisque le Traqué kurde est un oiseau. Depuis aussi les placards des collections ornithologiques du British Museum jusqu'au sable de l'Arabie et au mont de Turquie, et même jusqu'au Puy de Dôme où vous nous le rappeliez, ce Traqué kurde a été observé en 2015 sur les ruines d'un site archéologique. Alors c'est un texte qui fonctionne aussi par l'enchevêtrement d'un certain nombre de portraits d'hommes de guerre qui ont en commun l'appartenance à l'armée ou à l'administration coloniale britannique, mais aussi un rôle clé dans l'étude des oiseaux de la région. Alors il y a Laurence d'Arabie, mais surtout l'horrible, on en parlera, horrible Meinertz-Hagen, officier des renseignements, il m'a passionné hein, ce Meinertz-Hagen, et ornithologue dont la rigueur scientifique était visiblement à géométrie assez variable. Mais on trouve aussi dans votre livre un pépiniériste kurdo-normand et bien d'autres personnages unis par cette passion de l'oiseau et par cette mémoire de la guerre. Un mot sur le titre pour commencer, Jean Rollin, puisque vous nous avez dit que le traqué kurde donc existait. Le traqué, c'est le nom vernaculaire, vous me corrigez, de petits passereaux dont le bruit en fait ressemble à celui que fait le traqué d'un moulin. Qu'est-ce que c'est le traqué d'un moulin? C'est un morceau de bois qui traverse ce qu'on appelle la trémie dans un moulin et dont le mouvement fait tomber le grain sous la meule. Et on dit par exemple de quelqu'un qui parle beaucoup, c'est moi en ce moment, c'est un traqué de moulin. Mais moi quand j'entends le traqué kurde, j'entends aussi le mot traque. Est-ce que c'est pas aussi ce mot et ces sonorités qui vous ont donné envie de poursuivre ce petit volatile?
Non, pas vraiment, j'y ai pas pensé. Enfin, c'est vrai que c'est un joli nom, le traqué kurde, un nom qui résonne avec l'actualité, bon. Mais c'est pas le nom qui m'a donné envie de me lancer dans cette entreprise, c'est la provenance de l'oiseau, l'étrangeté de cette apparition et sa relative coïncidence avec cette bataille de Kobané. Bon, en France, il y a un intérêt variable hein, pour la cause kurde, qui est d'ailleurs très difficile à définir, parce qu'en fait, il n'y a pas malheureusement une cause kurde, il y en a plusieurs, et les Kurdes sont même parfois assez enclins à se faire la guerre entre eux, hélas. Bon, il y a eu un très grand intérêt suscité par Bernard Kouchner et Madame Mitterrand à une époque, puis après ça retombe, etc. Et là, en France, il y a eu une recrudescence de cette kurdophilie, qui est plutôt, c'est-à-dire même dans sa confusion, un sentiment sympathique par ailleurs. Bon, il y a une recrudescence de cette kurdophilie au moment de la bataille de Kobané. Mmh. Où, bon, je le rappelle, des combattants kurdes, enfin alors là d'une obédience particulière, parce que c'est des combattants en fait du PKK, c'est-à-dire d'un parti qui se réclamait jusqu'à l'époque très récente du marxisme-léninisme. Maintenant ils affirment qu'ils sont devenus sociaux-démocrates. Mais enfin ça se fait pas du jour au lendemain de passer du marxisme-léninisme à la social-démocratie. Et en tout cas un parti qui se caractérise par de plusieurs choses. D'abord un côté totalitaire, mais aussi une dimension héroïque. Et le fait qu'il respecte une stricte parité entre hommes et femmes, y compris ce qui est assez exceptionnel quand même au casse-pipe. C'est-à-dire qu'il y a un aussi grand nombre de soldats et d'officières dans ce mouvement que de leur équivalent masculin. Ouais. Et donc ils tenaient cette petite ville de Kobané à la frontière turque et ils ont été assaillis dans cette ville par l'État islamique. Ils ont soutenu un siège tout à fait effroyable. Et ils ont fini avec l'appui, d'ailleurs, un appui décisif de l'US Air Force par avoir raison de l'État islamique. Et par ailleurs, ça fait partie des choses, enfin, par rapport aux gens qui ont une vision simpliste de l'histoire, quoi. C'est vrai que imaginé auparavant qu'un jour, ce qui était quand même d'une certaine façon un groupuscule au départ, hein, marxiste-léniniste, moyen-oriental, remporterait une victoire militaire avec l'appui de l'US Air Force, hein, c'est assez paradoxal, quoi, c'est assez confondant. Hein.
Et c'est au moment de cette bataille que ce petit oiseau, ce traqué kurde, apparaît donc dans le Puy-de-Dôme.
Oui, c'est un peu après, mais ça correspond à peu près au temps qu'il aurait pu mettre, effectivement, pour... Sauf que le traqué kurde, il se rencontre en gros à partir de 1500 mètres d'altitude, enfin un peu moins, entre 1500 et 2500 mètres, je crois. Kobané n'est pas concerné, donc par le Kobané n'est pas dans la zone de reproduction du traqué kurde.
Mais vraiment, qu'à cela tienne. Quand même, on y a vu un message, parce qu'en plus, c'était sur le, je le rappelle.
Oui, hein, oui, en plus, il se trouve
sur un temple de Mercure.
Il se trouve que c'est tout à fait fortuit, mais le Clermont-Ferrand est une ville qui compte une importante population, communauté kurde.
Ce sont des choses comme ça, quand même, qui stimulent l'écrivain que vous êtes, même si vous dites, j'ai pas voulu développer le côté messager à cause de Mercure, il s'appelle Traqué Kurde, c'est pendant Kobané. Quand même, ce genre de détail romanesque, là, vous nous rappelez que Clermont-Ferrand compte une importante communauté kurde, c'est ça aussi qui fait qu'on décide de consacrer un livre à ce petit oiseau. Il n'y a pas que ça.
Oui,
hein,
mais si, enfin bon, je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais pour ce qui me concerne, il y a toujours une grande part d'aléatoire dans la manière dont un livre se construit. Et en fait, au début, j'entends parler de cet oiseau, je me rends à Clermont-Ferrand, je rencontre la personne qui s'appelle, je crois, Alex Lamins, qui l'avait observé. On en discute, j'apprends, parce que je l'ignorais, qu'il y avait une importante communauté kurde dans cette ville, et j'étais un peu parti là-dessus. J'avais l'intention de rencontrer des Kurdes de Clermont-Ferrand, de parler avec eux de cette visite tout à fait inopinée, etc. Et puis ça s'est pas fait comme ça, quoi. Ça s'est pas fait comme ça parce qu'en chemin, je suis tombé sur Meinert Sagan.
Ah, voilà, alors,
J'ai lu un livre auquel je rends hommage, parce que je lui dois beaucoup, d'un américain, je crois, qui s'appelle Brian Garfield, qui a écrit un énorme ouvrage, l'ouvrage de référence sur Meinert Sagan. Je suis tombé là-dessus, je suis parti en Angleterre, j'ai été au British Museum, enfin, au département d'histoire naturelle du British Museum qui est en dehors de Londres. J'ai ouvert ses tiroirs, j'ai vu des oiseaux, notamment de cette espèce, tués par le fameux Meinert Sagan, d'autres, à la même époque, tués par Saint John Philby, etc. Et donc, je suis parti dans un truc que je n'avais absolument pas prévu au départ, sur les liens entre l'ornithologie et, disons, l'impérialisme britannique.
Alors, Christian Garcin, une question vous était posée par Jean Rollin, sur la façon dont les livres se construisent.
Oui, de manière assez aléatoire également. Oui. Mais forcément, ces signes-là, on les repère. Et évidemment, ça fait signe. Beaucoup de mes livres sont construits, enfin, comme le disait Jean, de façon aléatoire. C'est-à-dire, en gros, que quand je commence un livre, un roman, ou pendant un roman d'ailleurs, enfin, un livre en général, tout n'est pas très dessiné, très clair dans ma tête, évidemment. Je ne crois pas être le seul, ni avec...
Il y a quelques points chauds, quoi. Voilà. C'est ça, il y a quelques zones...
Je pense qu'on n'est pas les deux seuls à opérer de la sorte. Et il est vrai qu'il y a des signes parfois qui jalonnent comme ça l'écriture du livre, qui font signe où on peut se dire, si on croit à la magie, on se dire, tiens, ça veut dire que je suis sur la bonne route.
Par exemple, pour le cas des oiseaux morts de l'Amérique.
Oh ben là, par exemple, à un moment donné, il y a le personnage d'un policier qui, je ne saurais dire pourquoi, se trouve être dans mon livre d'origine suédoise avec un nom suédois. Je n'avais aucune idée pourquoi ce nom est arrivé, je n'en sais strictement rien. Il est question ensuite, pour parler d'oiseaux, donc de ces chutes d'oiseaux morts. Et j'ai découvert en faisant des recherches là-dessus qui s'était produit, donc, comme je le disais tout à l'heure, des chutes de ces mêmes oiseaux en Suède. Ce que j'ignorais au moment où le personnage est entré en scène.
Donc il y a une magie, en fait, vous savez, qui porte l'écrivain.
Sans parler de
j'y
magie.
J'y crois beaucoup.
Mais disons qu'on se dit, ben, chouette, quoi, c'est une aubaine. Ouais. Voilà.
Alors ce fameux Meinert Sagan, Jean Rollin, j'aimerais que vous nous le fassiez découvrir. On va vous entendre lire un passage où il est, voilà, il est en majesté, ce Meinert Sagan.
Oui, simplement un détail, c'est qu'il a le... Meinert Sagan est un extraordinaire imposteur, et un personnage assez redoutable, un probable assassin, etc. Il a truqué énormément de données, tout ça a foutu un bordel monstre dans l'ornithologie, et notamment dans la répartition des espèces, mais c'était quand même un très grand ornithologue. Hein. Ouais. C'était un imposteur, mais c'était pas un complet imposteur. Ouais. Il était considéré, avant que ces malversations soient découvertes, il était considéré, semble-t-il, comme le plus grand ornithologue britannique de son temps, en tout cas un des plus grands.
Et homme de guerre aussi, comme on va le voir.
Et homme de guerre, oui. Sur une photographie datant de 1915, l'année où il se vante d'avoir tué sous sa tente le duc de Vecklenburg, Meinert Sagan apparaît souriant, coiffé d'un chapeau de brousse et tenant à deux mains le corps sans vie d'une grande outarde. Car même au pic de sa carrière militaire, il n'a jamais cessé de s'intéresser aux oiseaux, principalement, mais non exclusivement, pour en collectionner les dépouilles. Dans son article déjà cité du New Yorker, John Seabrook signale qu'en 1917, alors qu'il est attaché à l'état-major d'Allenby, Meinert Sagan utilise des instruments de réglage des batteries antiaériennes britanniques pour calculer la vitesse et l'altitude des oiseaux. À la même époque, Erwin Stresemann, appelé à devenir l'un des phares de l'ornithologie allemande et mondiale, fait exactement la même chose entre Verdun et Belfort, et trouve même le moyen de publier en 1917 dans une Allemagne exsangue un article sur l'altitude à laquelle volent les martinets, fort de son expérience d'observateur d'artillerie embarqué sur un aérostat. Les Français ne sont pas en reste, puisque Jacques Delamain, l'auteur de « Pourquoi les oiseaux chantent », observe pendant la Grande Guerre le comportement des oiseaux au milieu des combats, et note par exemple que le 6 mai 1915 dans l'Aisne, je cite, « une Hippolaïs polyglotte chante sous le départ des coups de 90 », auquel un verdier réagit avec la même indifférence, tandis que quelques jours plus tard, à 5 heures du matin, un coup de 75 n'interrompt qu'imperceptiblement un merle en plein champ. Et les marins, pendant ce temps, eh bien, ils ne restent pas inactifs, comme en témoignent les travaux sur l'avifaune du Ba Yangtze, poursuivi par le futur amiral Hubert Lines à bord du croiseur léger qu'il commande à l'époque, le Pénélope, et malheureusement perdu pour l'essentiel à la suite du torpillage de celui-ci le 25 avril 1916 par un U-boat allemand.
Merci Jean-Rollin pour cet extrait du Traque et Kurde. Donc, comme le disait l'autre, pour la sociologie, l'ornithologie est un sport de combat ?
Oui, enfin, ça peut en être un, oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les cocheurs, les gens, les dingues de l'observation d'espèces rares. Et qui peuvent effectivement, enfin, pas tous, hein, mais ils en arrivent dans leur frénésie à se battre entre eux. Là, je cite le cas d'un gars qui est mort d'une crise cardiaque, en pourchassant je ne sais quel oiseau extraordinaire.
Bon. Mais qu'est-ce qui relie quand même le fait que ces hommes de guerre soient aussi, et des grands hommes de guerre, où ils sont officiers dans l'armée britannique ou dans le renseignement? Ça donne... Quels sont les liens, en fait, entre ces deux passions, si je puis dire?
Non, moi, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est pourquoi, seulement, en France, par exemple, l'ornithologie apparaît comme une activité d'abord très marginale et pratiquée par de doux rêveurs. Enfin, c'est exactement l'image qu'on a de l'ornithologue en France. Et pourquoi, en effet, en Grande-Bretagne, il est tout à fait usuel que des hommes de guerre redoutables ou des administrateurs coloniaux pas particulièrement tendres et rêveurs non plus, le premier gouverneur de l'Irak, par exemple, Sir Percy Fox, pourquoi ces gens-là sont adonnés avec une telle, en plus, constance et une telle passion à l'ornithologie? Je pense que ça tient très probablement, mais alors là, si vous voulez, j'ai un peu perdu les ficelles de l'analyse marxiste à mon âge, je pense que ça tient un peu à la structure de la propriété foncière en Angleterre. Comme chaque année, l'Angleterre n'a pas connu de révolution, enfin pas comparablement de révolution politique. L'aristocratie a conservé quand même la plupart de ses privilèges. L'aristocratie a conservé également ses terres. Donc il y a des grands domaines. C'est généralement de cette classe que sont issus les chefs militaires et les grands administrateurs civils. Et c'était une tradition sur leur domaine de chasser, bien sûr, mais aussi de s'adonner à l'observation des oiseaux. Donc là, je hasarde une analyse de classe
très
audacieuse.
Ça se perd, l'analyse marxiste ? On perd ça ?
Non, mais il ne faut pas la perdre totalement. Simplement, ça se perd, oui, le don d'en faire, de l'appliquer à telle ou telle situation, ça se perd avec l'âge. Oui.
Alors, votre explication, elle est marxiste, elle est séduisante, Jean-Rollin, mais il y a des Français aussi. Or, les Français, ils ont connu la Révolution. Vous parlez d'une figure, René de Norroy, qui, en fait, alors, je vous cite, dans certains cercles ornithologiques, il est de bon ton de prétendre que partout où il se rendait pour étudier les oiseaux, un coup d'État favorable aux intérêts de la France survenait dans les mois suivants. Mais rien, ajoutez-vous, mais rien ne permet d'étayer de telles assertions. Alors vous ajoutez ça, mais quand même, là il s'agit d'un Français.
Alors là, je précise que moi j'ai beaucoup de, enfin je ne l'ai pas connu personnellement, hein, mais a priori j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour la figure de René de Norroy. Bon alors effectivement ce bruit a couru, mais les gens racontent ça parce que aussi comme c'était, il avait été dans les commandos de marine, etc. Voilà, pourquoi pas. Mais moi, j'ai étudié un peu la carte des déplacements de René de Norroy. Je vois absolument pas quel renseignement utile il aurait pu procurer au service français, d'une part. Et d'autre part, il faut quand même rappeler que René de Norroy, donc, était prêtre en Allemagne dans les années 30, qu'il a été un des prêtres les plus constants dans sa dénonciation du nazisme et notamment des persécutions contre les juifs, qu'il n'a pas cessé d'alerter sa hiérarchie jusqu'au pape, etc., à ce sujet, qu'après, pendant la guerre, il a... très activement aider des juifs, donc quand même au risque de sa propre vie, hein, à passer en Espagne, qu'après cela, il s'est engagé dans les forces françaises libres et qu'il fait partie des très rares Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie. sans armes. Parce
que, oui, mais ça, ça nous éloigne des oiseaux. Bon.
Non, non, je voulais simplement rappeler qui était René de Noroy, parce que René de Noroy est par ailleurs un grand ornithologue, mais c'est une activité à laquelle il s'est adonné surtout après la guerre. Enfin, c'est une passion qui, comme souvent, prend son origine dans son enfance, mais il ne s'y est adonné véritablement qu'une fois délivré de ses obligations, sinon sacerdotales, en tout cas militaires.
Vous nous parliez des Anglais qui n'ont pas connu la Révolution, les grands propriétaires terriens, mais cette figure dont vous parlez, René de Noroy, donc commando de marine, prêtre, est une figure française.
Il était d'une famille aristocratique, du sud-ouest, enfin, après tout. Non, mais justement, il pourrait confirmer mon analyse, parce que lui-même est né sur une grande propriété, je crois, dans un petit château, des terres autour, etc. Et on pourrait dire, c'est également le cas de la main que je cite, de la main n'était pas précisément un gueux, hein, c'était un grand propriétaire aussi, enfin, il me semble.
Est-ce que vous saviez, quand vous avez entrepris ce livre, hein, Le Traqué Kurde, que finalement ce petit oiseau allait vous mener à raconter des guerres absolument effroyables entre des hommes de guerre, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité sans nom dans ce milieu de ces officiers qui se livrent à l'ornithologie. Duels de grands fauves. On se pique des découvertes, on dépouille, le mot revient souvent, on dépouille des oiseaux, on traverse un désert, on tue, on ramène 700 oiseaux. Il y a un côté aussi grand fauve se disputant le volatile.
Oui, bien fait. Il faut bien voir que l'ornithologie, au moins jusque dans les années 50, se pratiquait à coups de fusil. Il fallait bien des rameaux, à un moment donné, en passer par là. Pour avoir des spécimens, pour les étudier, pour procéder à des classifications, etc., il y a bien un moment où il faut les prélever dans la nature. Alors c'est d'ailleurs assez, il y a un tournant qui s'est opéré, je pense, dans les années 60. Et c'est d'ailleurs assez curieux parce que l'an dernier, je crois, il y a 2 ans, un malheureux ornithologue américain, je crois, a tué un spécimen de martin pêcheur qui n'avait encore jamais été observé. C'était en Nouvelle-Guinée, je crois. C'était une occasion absolument unique. Il fallait que cet oiseau soit étudié puisqu'il était inconnu. Il a cru possible d'en tuer un. Et ça a été un tollé sur le net. Les gens demandaient qu'il soit... Je crois qu'il a été pratiquement acculé à la démission parce qu'il avait tué un spécimen d'oiseau, alors qu'à l'époque, c'était par centaines, effectivement, que les... il y a cette image, par exemple, de Saint John Philby, qui était lui-même, entre autres choses,
donc
ornithologue,
le père de Kim Philby,
qui tire au pistolet, paf, comme un malade, sur un aigle, que fort heureusement, d'ailleurs, le compte, il rate. Mais c'est comme ça, l'ornithologie, elle se pratiquait, sinon, à coup de canon, du moins, à coup de fusil. Hein.
Alors, vous nous parlez de Laurence d'Arabie, qui se fait fesser par ce fameux Meinertz-Hagen. Enfin, dit-il, hein, c'est lui qui le raconte.
C'est Meinertz-Hagen qui le raconte, oui.
Exactement. La guerre, elle est partout, hein. Dans ce livre, puisque vous recopiez même des passages de votre journal d'enfant quand vous relatiez le putsch des généraux dans l'Algérie donc des années 60. La guerre, elle est souvent au centre du jeu chez vous, Jean Rollin. Et même quand elle n'est pas là, il vous est arrivé de la prophétiser. Je pense à votre livre Les événements, où vous postuliez par le roman une guerre civile en France. On découvrait des factions. Il y avait même Akbri, Al-Qaïda dans les Bouches du Rhône islamique. Quel sens cela continue-t-il à avoir pour l'écrivain que vous êtes de continuer à manipuler cette matière-là, la matière guerre, même si vous traitez à chaque fois le sujet sous des coutures avec des angles différents. Là, c'est l'angle des oiseaux, par exemple. Cette guerre que Valéry décrivait dans ses cahiers, ainsi, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas.
Oui, elle est jolie, cette définition, d'ailleurs. Elle est jolie, elle est pas fausse. Hein. Enfin, c'est pas toujours vrai, d'ailleurs. Aujourd'hui, je sais pas s'ils se connaissent tellement. Bref, c'est une autre question. Mais... je m'intéresse surtout, d'ailleurs, à ce que je connais un peu, c'est-à-dire plutôt la périphérie de la guerre, tout ce qui n'est pas directement l'affrontement armé. Mais parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est les bouleversements que ça induit dans la vie des gens, dans le paysage. Je dis, par exemple, le fait que la... Alors là aussi, il faut être très prudent quand on parle de la guerre. J'avais été frappé, mais autrefois, pendant le siège de Sarajevo, pour la dimension du silence. Tout le monde imagine la guerre comme quelque chose d'extrêmement bruyant, ce qu'elle est, bien entendu, dans le cas, par exemple, des derniers mois du siège de la bataille de Mossoul, etc. Mais la guerre, c'est aussi des moments, souvent extrêmement longs, de totale inactivité. C'est une suspension de toutes les activités humaines, en dehors du combat. Et donc, c'est aussi de silence, l'immobilité. Je dois avoir eu cette vision. Enfin, j'en ai parlé souvent déjà, mais en arrivant à Sarajevo avec un convoi, humanitaire probablement, de cette ville dans le lointain, comme ça, là, avec ses... bon, il n'y a pas de gratte-ciel, mais enfin, c'est building, etc. Et de cette ville aurait dû émaner, comme de toutes les grandes villes, une rumeur, un fracas. Bon, et en fait, non. Ce qui était frappant, c'était son extraordinaire silence et son extraordinaire immobilité. C'était dans un moment de suspension des combats, mais il y a toujours des moments de suspension des combats, et parfois, ils sont très longs, parfois, ça dure des semaines. Donc, il y a cette, voilà, je cite ça parmi d'autres.
Mais vous ne vous lassez pas ce sujet. Je disais, je parlais des événements où là, on était dans une forme d'anticipation de guerre civile en France.
Oui,
mais... elle ne vous lâche pas, cette guerre.
Non, parce que quand on est journaliste, enfin reporter, c'est quand même une chose à laquelle on est confronté. J'ai été frappé, comme beaucoup de gens de ma génération, particulièrement par la guerre en Yougoslavie, parce que la guerre nous apparaissait auparavant, à travers la guerre du Vietnam, etc. Ça ne nous concernait pas directement, si je veux dire, enfin la première, si, la guerre d'Indochine, oui. Mais ça paraissait exotique, la guerre. Et c'est vrai que la guerre froide, la lutte entre les deux blocs, avait déplacé finalement la guerre à la périphérie. C'est-à-dire que dans les pays développés, on n'en avait plus parlé, ça se passait à la périphérie. C'était certes très regrettable, mais enfin ça ne nous concernait pas, ça ne nous atteignait pas directement. Et comme beaucoup de gens, j'ai été frappé en Yougoslavie par le fait que c'était une guerre, pour nous totalement imprévisible, pour les Yougoslaves un peu moins, et qui survenait dans un pays extraordinairement semblable au nôtre.
Cœur de l'Europe.
Et voilà, et donc c'est depuis, je pense, c'est depuis que c'est devenu non pas une obsession, mais quelque chose qui m'est continuellement présent à l'esprit.
Alors précisément, Jean Rollin, vous regardiez Christian Garcin quand vous mentionniez le Vietnam. Vous, Christian Garcin, dans Les oiseaux morts de l'Amérique, chez Actes Sud, vous avez choisi de parler des guerres américaines, alors celle du Vietnam, celle de l'Irak. Alors c'est vrai que ces guerres, le cinéma de Apocalypse Now par exemple, ou à des mineurs pour la guerre d'Irak, les images d'actualité aussi, le cinéma et ces images-là l'ont universalisé. Mais il n'empêche que ça reste des guerres américaines. Pourquoi êtes-vous allé mettre vos pas dans ces guerres-là ?
Eh bien, en vérité, ça provient d'un projet que j'avais donc avant d'entamer le livre, qui lui-même provenait de l'écriture d'un livre précédent, qui s'appelait « Les nuits de Vladivostok », dans lequel il est question, pendant une partie du livre en tout cas, des étages souterrains du métro de New York, dans lesquels, sur 12 niveaux au moins, vivent des milliers de gens, qui sont des SDF, des laissés pour compte, des camés, des drogués, des repris de justice, des gens qui fuient le monde également, et dans lesquels s'organise une micro-société extrêmement violente. Et ils ont pris abriter jusqu'à 7000 personnes, et les New-Yorkais, dans la majeure partie des cas, ignorent qu'il y a sous leurs pieds, lorsqu'ils marchent, des milliers de gens qui vivent dans ces étages souterrains, et qui pour certains sont atteints d'un syndrome dont j'ignore le nom, mais qui consiste à ne plus pouvoir monter à la lumière, à rester donc enfermés sous terre.
On retrouve ces rats de tunnels dont
voilà.
Vous parliez.
Alors eux, on les appelle les Mallmen, les hommes taupes, ces gens-là, voilà. Et en faisant des recherches sur ces Mallmen, sur ces hommes taupes, je m'étais renseigné donc sur divers cas de figure dans lesquels il y avait des hommes qui vivaient sous terre en quelque sorte, soit à l'abri dans des galeries, etc. Et j'étais tombé à la fois sur les rats des tunnels pendant la guerre du Vietnam, les guerres du Vietnam, et également sur les hommes qui vivaient à Las Vegas, dans les canalisations d'évacuation des eaux à Las Vegas. Alors là, ce n'est pas des niveaux successifs souterrains, c'est à l'intérieur de tunnels. Il faut savoir que Las Vegas est construit dans une cuvette, dans un désert, le désert le plus sec des États-Unis, le désert de Mojave. Et la ville a souvent été inondée, parce que lorsque les pluies tombent extrêmement fortes, les collines aux alentours sont tellement sèches que la pluie ne pénètre pas, donc dévale les pentes et inonde totalement la ville, si bien qu'on a creusé des réseaux de canalisation, des collecteurs d'eau, voilà, dans lesquels vivent des SDF, qui sont de l'ordre de plusieurs centaines, et qui se trouvent être pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, d'anciens Marines, d'anciens
donc
soldats
c'est,
américains.
Si je
c'est comme
bien,
ça que le roman est né.
Voilà, c'est cette observation, finalement, de mode de vie humain proche, puisqu'on les appelle les Mallmen, les hommes taupes, et les rats des tunnels, donc pendant la guerre du Vietnam, qui étaient chargés d'explorer les tunnels et de neutraliser les ennemis qui étaient à l'intérieur. C'est cette observation presque éthologique qu'est née en fait cette envie de parler de ces guerres américaines.
Oui, en quelque sorte, il y a aussi l'espèce de contraste qui m'a sauté aux yeux lorsque je me trouvais à Las Vegas. Las Vegas, bon, c'est une ville, mais pour la plupart des gens, dans l'imaginaire collectif, c'est un boulevard. C'est le Strip sur lequel il y a ces extraordinaires, à la fois incroyables, énormes, affligeants d'un certain point de vue également, bruyants, mégalomaniaques, casinos et hôtels. Cette espèce de débauche de luxe, d'argent, de couleurs, d'odeurs, de musique, etc. sur lequel se trouvent des gens qui sont à genoux sur leur tabouret et qui font la manche, qui se trouvent être des anciens soldats. Et lorsque je me suis rendu à Las Vegas et lorsque j'avais donc aussi m'étais documenté sur ces gens qui vivaient dans les tunnels d'évacuation des eaux, je m'étais dit que j'allais écrire quelque chose sur eux. Et il se trouve que, étant donné que ce sont d'anciens soldats, j'ai parlé inévitablement des guerres un peu d'Irak et surtout du Vietnam, puisque le principal personnage est un ancien du Vietnam. Mais c'était pas mon projet de départ, c'était pas de parler des guerres américaines. Ça s'est trouvé automatiquement amené par le fait que je voulais parler de ces gens qui vivaient sous terre à Las Vegas.
Voilà, les aléas du roman dont parlait Jean Rollin tout à l'heure. Voilà, on ne sait pas ce qu'un roman va être finalement avant de l'avoir terminé ou avant qu'on ne croie l'avoir terminé peut-être. Les oiseaux morts de l'Amérique, on continue à en parler, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Procol Harum, A White Shade of Pale. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, c'est le choix musical de Christian Garcin qui publie chez Actes Sud Les Oiseaux Morts de l'Amérique. Elle est présente dans le texte, Christian Garcin, cette chanson, page 172 exactement, à un moment bien précis. Quelle importance a-t-elle ? Pour vous, ouais. Pour votre personnage Hoyt Stapleton.
Oui. C'est une chanson qui date de 67, donc en pleine guerre du Vietnam, à l'époque où le personnage Hoyt Stapleton était lui-même là-bas au Vietnam, puisqu'il y restait donc dans mon livre 3 ans, de 66 à 69. Et il se trouve que c'est une chanson qui, alors je vais faire ma midinette un peu, mais m'émeut prodigieusement. Voilà, quand je l'écoute.
C'est pas réservé aux midinettes, l'émotion.
On l'a vu.
Oui, on l'a vu. Vous chantiez, oui.
Alors, je sais un peu pourquoi, parce que c'est une chanson qui, pour moi, est liée à la figure de mon père. Quoi. Mon père, qui n'était pas spécialement quelqu'un qui écoutait de la musique contemporaine de son époque, aimait énormément cette chanson. Et on avait à la maison le 45 tours, avec les têtes incroyables des quatre chanteurs et musiciens du groupe, d'ailleurs. Donc, j'ignore absolument s'ils ont jamais composé ou écrit autre chose. Je ne connais que cette chanson de ce groupe-là, mais je suis assez inculte en la matière, il faut dire.
Et c'est en hommage à votre père que personnage se retrouve vraiment, à l'écouter.
Oui, alors un peu, mais c'est aussi parce que c'est pendant ces années de guerre du Vietnam, et c'est aussi parce que c'est un roman qui, tout de même, enfin, il me semble que c'est surtout, avant tout, un roman sur le temps, la mémoire, l'oubli et l'enfance. Mmh. Et comme cette chanson résonnait, pour ce qui me concerne, avec également ma propre enfance, je pense que la collusion des deux a fait que je l'ai forcément inscrite à l'intérieur.
Les oiseaux morts de l'Amérique. Alors le titre est comme un clin d'œil à celui de Jean Rollin qui est à vos côtés dans cette émission, qui publie lui le Traqué Kurde chez Paul. Et ce livre, Les oiseaux morts de l'Amérique, nous emmène donc après le Kurdistan rollinien, aux côtés d'une Amérique des marges. Hein, vous nous en parliez dans ce vaste réseau de collecteurs de pluie qui sillonne Las Vegas. C'est au fond d'un de ces larges tunnels que vivent donc trois vétérans de l'armée américaine, laissés totalement pour compte. Hoyt Stapleton, ancien anciens du Vietnam, et Myers et Mac Mulligan, qui sont eux deux anciens de l'Irak. Alors ce livre, il a la particularité à la fois de nous raconter le quotidien de ces laissés pour compte du rêve américain, mais aussi de nous promener finalement dans le temps, puisque Hoyt Stapleton, qui est un lecteur, qui aime la poésie, a aussi une imagination, une faculté à pouvoir se projeter dans le temps, c'est-à-dire vers son enfance aussi, dans le futur aussi, vers des mondes plutôt apocalyptiques. Et ce qui est intéressant, c'est ses plongées dans l'enfance, qui le ramène même autour de la nuit de sa conception, air d'innocence, et pourtant déjà de guerre en fait, puisqu'il est question d'un père qui part au combat. Et cette faculté à voyager dans le temps lui permettra à votre personnage de formuler finalement l'indicible à la fin du livre, qui est un retour dans la guerre, un retour dans la guerre du Vietnam. Et en fait, je voudrais vous citer Christian Garcin, puisque quand vous parlez de Stapleton, vous écrivez « Stapleton constatait que rien n'avait jamais changé, c'était toujours la même merde, des jeunes types utilisés, transformés en assassins bouffés de trouille, traumatisés à vie ». Qui avait eu la chance de s'en sortir en un seul morceau et qu'on avait pour certains d'entre eux laissé tomber, sans pension, sans rien. Malgré ces phrases de Hoyt Stapleton, finalement le fait qu'il puisse, grâce à la guerre, grâce à ce traumatisme, replonger dans l'enfance, est-ce que la guerre ne serait pas finalement aussi la matrice d'une expérience certes destructrice, mais aussi fondatrice finalement, ce qu'il remonte à une forme de vérité?
En fait, c'est une histoire d'anamnèse, hein, ce livre, finalement. Pour lui, il y a donc un souvenir fondateur, un souvenir oublié, qui détermine son comportement dans notre présent. Et ce souvenir est lié à un épisode particulier de la guerre du Vietnam, qui est un épisode assez traumatisant, comme beaucoup de scènes de guerre, mais celui-là particulièrement pour ceux qui y ont participé, qui est la fameuse bataille de Hamburger Hill, en 1969, à laquelle il a participé. Donc, pour ce qui le concerne, événement qu'il avait totalement oublié. C'est quelqu'un qui, au début du livre, fuit absolument le passé, les souvenirs et la mémoire, hein, qui s'imagine, à force de lecture, d'ouvrages de vulgarisation d'astrophysique, d'ouvrages de science-fiction, qui imagine donc des mondes futurs dans lesquels il se rendrait comme un fantôme silencieux qui examinerait ce que serait la société dans 100, 200, 1000 ans. Et puis, peu à peu, il consent à revenir en arrière et à revisiter des pans entiers de scènes de son enfance, jusqu'à donc cette scène-là à la fin du livre, qui vient dénouer de nombreux fils qui ont été tendus pendant tout le livre et auxquels il n'a pas accès, à la résolution desquels il n'a pas accès jusqu'alors.
Alors, ce livre, il est aussi particulier dans la mesure où il ne cesse de convoquer, comme vous aussi d'ailleurs, Jean Rollin, les lectures, mais là où il s'agissait d'ouvrages plus ornithologiques chez vous, chez Christian Garcin, ce sont les poètes, hein, qui sont à l'honneur dans la mesure où Hoyt Stapleton est un lecteur de poésie. Et il multiplie, au fond, les références à la poésie qui émaille hein, vraiment votre texte, qui s'inscrit entre les lignes. Il s'agit du poète australien Les Murray, par exemple, mais aussi de T.S. Eliot ou de William Blake, auteur de ces mots qui pourraient d'ailleurs résumer le roman. « Certains sont nés pour le délice, certains pour une nuit sans fin ». Quel sens il faut donner à cette surabondance de poésie dans un récit presque exclusivement porté par le souvenir de la guerre ?
Oh ben c'est précisément ça, c'est-à-dire enfin le contrepoint quoi. Hoyt est donc Stapleton, le personnage est donc un lecteur. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Alors il y a aussi un autre personnage qu'il rencontre, qui travaille au Blue Angel Motel dans la fée bleue de
Horn,
la couverture du livre. Motel qui d'ailleurs a été détruit pendant que j'écrivais le livre, ce que j'ignorais lorsque je l'écrivais, qui est un motel mythique de Las Vegas. Hein. Et donc ce rapport à la poésie, ce rapport qu'ont les lecteurs de poésie à la réalité du monde, c'est-à-dire une espèce de présence du langage qui est en dehors du langage commun, en dehors du langage quotidien et qui est une espèce aussi de pause dans le fracas. Mmh.
Certains avaient dit qu'on ne pouvait plus faire de poésie après la grande catastrophe.
Oui, enfin on dit tant de choses.
C'était Adorno.
Mais, oui, bien sûr.
Mais pour vous,
mais
non.
L'évolution, enfin le contraire a été démontré, me semble-t-il, depuis.
Le langage vient réorganiser les choses,
ça,
le sens.
Oui, il y a aussi le rapport au monde global du personnage qui est en rapport à une recherche de lenteur, d'intériorité. Il lit des poèmes, il dessine également, il peint. Enfin, il faut savoir que donc il est à Las Vegas, il est à la fois dans le fracas des souvenirs et puis le quotidien qui est le sien, qui est un quotidien de personnes qui vivent dans la rue, quoi. Et le fracas également de l'endroit où il va à peu près tous les jours pour faire l'aumône, qui est le fameux strip de Las Vegas avec ses casinos, en fait toutes ces images que l'on connaît et qui assaillent absolument tous les sens. Donc il a besoin de retrait. Et la poésie pour lui, c'est aussi une façon de se mettre un peu en retrait de ce monde-là.
Alors j'ai même trouvé pour vous, Jean Rollin, la voix d'un rossignol dans le texte de Christian Garcin, puisque c'est Ode to a Nightingale de Keats que vous citez. Ce même chant peut-être avait trouvé la voix du triste cœur de Ruth, privé de sa patrie, qui demeurait en pleurs dans le chant étranger. La poésie, Christian Garcin, joue-t-elle le rôle d'une forme de consolation pour ces gens face à la guerre? De la même façon, c'est une de mes hypothèses, Jean Rollin, quand le lecteur se trouve face à un Courvite Isabelle, un Sirli du désert, face à la Bouscarle de Palaos, tous ces noms d'oiseaux, finalement, on y trouve un plaisir esthétique qui se substitue aux images de conflit que nous avons et où vivent d'ailleurs souvent ces oiseaux. Il y a ce côté-là dans la poésie des noms d'oiseaux, dans la poésie de Keats, face aux territoires de guerre dans lesquels sont immergés chacun de vos personnages.
Oui, il y a une poésie indéniable des noms d'oiseaux. Il y a une, enfin, moi, mon goût pour les oiseaux, il procède d'abord de l'observation que j'en ai faite très tôt, dans le jardin de ma grand-mère. Mais il procède plus tard de ce goût pour les nomenclatures, les listes de noms. C'est absolument fascinant. Enfin, il y a des oiseaux dont je ne connais à peu près que le nom. D'ailleurs, le cirapte paradoxal, par exemple, c'est tout de même un nom ahurissant. Pourquoi est-il paradoxal?
Mais le fait de les inscrire dans votre texte au milieu justement de ces territoires où il y a la guerre, où il y a ces hommes de guerre, c'est une façon aussi, comme disait Christian Garcin...
Oui, c'est peut-être un contrepoint, oui, bien sûr. Enfin, c'est pas seulement le nom des oiseaux, c'est la présence des oiseaux qui est un peu l'antithèse de la guerre.
Et pour vous donc, Christian Garcin, le fait d'avoir ce rossignol de Keats au milieu de ce chaos, de cette vie absolument atroce que mènent vos vétérans dans leurs souvenirs de guerre et autres?
Oh, c'est pas le fait que ce soit l'eau de rossignol, c'est plutôt ce qui est dit, c'est-à-dire être en pleurs au milieu du chant étranger, c'est une allusion à un passage biblique, un poème célèbre de Keats, c'est-à-dire le fait de se sentir démuni, démuni dans un endroit où on est exilé, où on est exclu. Et pour le personnage, en fait, c'est son propre présent, quoi. Il est exilé dans son propre présent et ce n'est qu'à la fin du livre qu'il récupérera, en fait, son passé.
Je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait, Christian Garcin, de ce livre, parce qu'on a parlé de la guerre au Vietnam, on a parlé de la guerre en Irak. Mais vous nous parlez aussi d'un pilote de drone, donc ces drôles de soldats qui tuent à des milliers de kilomètres de leur cible, qui est lui-même un soldat d'Irak, puisqu'il a piloté des drones qui sévissaient sur le territoire irakien. Et il se dit de la même façon bousillé de l'intérieur après avoir passé ses années à tuer confortablement, finalement assis dans ce fauteuil. Je voudrais qu'on vous écoute le lire.
Ouais, une fois, il a même vu un couple faire l'amour sur la terrasse la nuit avec la caméra infrarouge, dit Mac Mulligan. Enfin, corrigea Myers, il a vu deux points rouges qui fusionnaient et en a déduit qu'il s'agissait d'un couple qui faisait l'amour. Et puis un beau jour, il appuyait sur la manette et boum. Ensuite, il allait assister à leurs funérailles. Et ça, 6 jours sur 7, pendant 4 ans, 12 heures par jour. Il sortait de là et rentrait chez lui comme si de rien n'était. Enfin, façon de parler. Impossible pour lui de partager quoi que ce soit avec quiconque. Impossible de dormir aussi, il disait qu'il se sentait mort à l'intérieur. « Tu veux pas devenir ma boule ?»« Guerre propre, tu parles ?» bougonna Mac Mulligan. Il y eut un silence. Partagé, murmura Hoyt.
Merci Christian Garcin, c'est un extrait des Oiseaux morts de l'Amérique, vous publiez chez Actes Sud. Pour terminer, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Dans le livre de Christian Garcin, Jean Rollin, il y a un personnage qui s'appelle Wayne Stiletto, et il a cette phrase « La vraie réalité du monde, c'est la guerre, pas la paix. La vraie nature de l'homme, du mal, M-A, accent L-E, c'est dans la guerre qu'elle se révèle. » Est-ce que c'est pour éviter ce genre de clichés que vous écrivez l'un et l'autre sur la guerre, ou pour vérifier aussi qu'il y a du vrai, hélas, dans ces clichés, et que c'est pour ça, peut-être, que depuis au moins l'Iliade, les écrivains écrivent sur la guerre?
De manière très opportuniste, je vous répondrai, c'est l'un et l'autre. Oui. Donc ça n'est ni pour illustrer ce cliché, ni pour le démentir. J'essaie d'apporter ma très faible part de compréhension de ce phénomène, même si il est assez distancié dans ce livre-là.
Il est là partout.
À propos des drones, je décris une scène, enfin, qui est un peu comparable, qui est depuis la terrasse d'un monastère au-dessus de Mossoul. C'était avant l'étape finale de cette bataille. On voyait la ville de Mossoul, on la voyait le soir s'éclairer. J'ai même réussi à la jumelle à distinguer un feu tricolore. Et au-dessus de ça, bourdonnaient des drones, justement, et tonnaient des chasseurs-bombardiers. Et de temps en temps, enfin, bon, à vrai dire, une seule fois le soir où j'ai observé ce phénomène, mais beaucoup plus souvent d'autres jours de la même semaine, on entendait une énorme explosion qui était consécutive donc au tir d'un missile. Voilà. C'est un spectacle très étrange. Quoi, parce
que... Les drones qui sont aussi de drôles d'oiseaux, finalement, qui sont dans le même espace que les oiseaux dont vous parlez l'un et l'autre.
Oui, des oiseaux tragiques, oui, en effet, ouais, terrifiants. Alors le personnage en question, Stiletto, c'est une caricature, mais qui existe. Je veux dire, ces propos-là, je les ai entendus. Beaucoup de monde les a entendus ou lus. hein, des gens qui affirment que la vraie réalité du monde, c'est la guerre, quoi, et qu'en fait, on attend entre deux périodes de guerre pour investir enfin la vraie réalité du monde. Pas tout le monde est d'accord avec ça, heureusement. Mais ces propos, oui, sont d'une grande violence. Et effectivement, ça est parti sans doute de la nature humaine. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles, depuis toujours, les moments de guerre, d'héroïsme, sont des moments sur lesquels les écrivains, les historiens, enfin, tout le monde écrit.
Et continueront à écrire. Merci à tous les deux. Merci Jean Rollin.
Merci, je vous en prie.
Merci Christian Garcin. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Les oiseaux morts de l'Amérique, c'est chez Actes Sud. C'est le livre de Christian Garcin. Et Le traqué kurde de Jean Rollin chez POL. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Sophie Marty, Anne-Laure Chanel à la réalisation, à la technique Mathieu Leroux. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr, cette heure sur la guerre et les oiseaux avec Christian Garcin et Jean Rollin.